Voilà, ouvrons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Vous l'avez chanté de tout votre cœur, si je me tais, j'apprendrai à écouter. Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 1er. C'est un texte qui s'adresse à ceux qui ont soif et faim de spiritualité, de la présence de Dieu. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Deuxième texte dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus s'adresse à l'église de Philadelphie. Et au verset 11, Apocalypse chapitre 3, verset 11, voilà ce que Jésus dit aux chrétiens de cette église. Texte qui est certainement pour plusieurs ce matin, écoutez-le bien. Apocalypse 3, verset 11. « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Je relis la deuxième partie du verset. « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Amen. Et la troisième lecture, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, à partir du verset 3, Paul écrit à ce jeune pasteur et il lui donne un conseil qui, je le crois, est pour l'Église ce matin. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, verset 3. Deuxième épître à Timothée. Vous aimez les conseils? Ouais. Ah oui, j'espère. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Je relis, s'il vous plaît, l'exhortation. Verset 6. Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Vous croyez ces choses? Quand vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez reçu la vie éternelle. La vie éternelle, vous l'avez, vous ne le réalisez peut-être pas, mais quelqu'un qui accepte Jésus-Christ reçoit la vie éternelle. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons été délivrés du péché avec un P majuscule. Nous avons été livrés de l'emprise du péché, même s'il nous arrive hélas de pécher de temps en temps, nous avons été délivrés du péché en soi. Et le Seigneur nous a délivrés, mais le Seigneur continue à nous guérir également, à nous délivrer. Nous avons besoin de guérison, de délivrance. Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Même une fois qu'on est appelé par Dieu, il y a besoin de victoire. Lorsque Jésus a choisi les 12, il savait très bien ce qu'il faisait. Il avait passé toute une nuit à chercher la face de Dieu pour ne pas se tromper justement. Il a tout le temps fait la volonté de Dieu. Il a choisi 12 hommes qui étaient à même de changer le monde par leur ministère. Et pourtant parmi les 12, il y en avait un qui n'a pas pris une certaine victoire. Il s'appelle Judas, c'est un homme qui avait un gros problème avec l'argent. Alors je nous pose la question ce matin, est-ce que Judas aurait pu être délivré de l'amour de l'argent? Est-ce que Judas, un soir, pendant les 3 ans et demi qu'il a passé avec Jésus, est-ce que Judas aurait pu dire au Seigneur, écoute Seigneur, il faut que je passe un moment seul avec toi, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que Judas aurait pu le faire, dire, voilà, tu sais, j'ai vraiment un problème avec l'argent. C'est vraiment un problème, c'est grave. Voilà, j'aime l'argent. Est-ce que Jésus aurait pu le délivrer? Mais bien sûr, et Jésus l'aurait délivré sans autre forme. Je veux dire, c'était une bénédiction. Judas n'a pas été délivré de l'amour de l'argent. Vous avez vu où ça l'a mené. Et parfois on me dit, oui, moi, cette personne a besoin de délivrance. Moi, je crois que Dieu délivre. Que Dieu délivre les pécheurs du péché, que Dieu délivre les chrétiens de problèmes qu'ils n'ont pas encore réglés. Mais je pense qu'il faut le demander. Parce que s'il y a bien une preuve que si nous ne le demandons pas, Dieu ne le fera pas, c'est bien le témoignage de Judas qui est resté esclave toute sa vie de l'amour de l'argent. Et vous avez vu comment le diable a utilisé cette faille pour faire entrer dans le plan diabolique de l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'un homme ne l'a pas demandé. Parfois, on est là dans notre foi qui n'est pas la vraie foi, dans une foi qui paraît très, très profonde. Dieu est souverain, alors il fait ce qu'il veut. Dieu est grand, il est tout puissant. S'il veut faire son œuvre, qu'il la fasse et il la fera. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche dans la parole de Dieu. Dieu nous demande de participer à son œuvre. Et si nous ne demandons pas certaines choses, il ne le fera pas. Vous en avez une preuve flagrante avec ce que je viens de vous dire. Cette semaine, je lisais un vieux livre, et un vieux pasteur, ça a été écrit il y a à peu près 300 ans, il a écrit quelque chose qui me permet d'introduire cette prédication après ce que je viens de vous dire. Écoutez bien, la seule chose qui soit nécessaire pour voir le mal triompher, c'est que les hommes bons ne fassent rien. Je le relis. Ça m'a vraiment interpellé. Parce que j'ai pensé à beaucoup, à nous, à notre assemblée. La seule chose qui soit nécessaire pour voir le mal triompher, c'est que les hommes bons ne fassent rien. Et cela peut arriver aux chrétiens de se contenter du salut, de se contenter de la grâce, de se contenter de cette faveur divine qui est notre partage, que nous le servions ou que nous ne le servions pas. Vous savez que Dieu nous garde. Nous, pareil, nos enfants, qu'ils soient gentils ou pas gentils, vous le savez, nous les bénissons quand même. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que vous avez plus béni vos enfants parce qu'ils étaient gentils? Est-ce que vous leur avez donné à manger quand ils étaient, est-ce que vous ne leur avez pas donné à manger lorsqu'ils n'étaient pas gentils? Lucas serait maigre, moi je vous le dis. Hein? Mes frères et sœurs, trêve de plaisanterie, nous avons donné à nos enfants, à manger à nos enfants, même s'ils n'étaient pas toujours obéissants. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon. Dieu, de la même manière, continuera à nous bénir, même s'ils ne sont pas toujours obéissants. Ça, c'est une loi biblique. Voilà, Dieu fait briller son soleil sur les méchants et sur les bons, etc. Mais je suis persuadé que mon ministère, bon, vous le connaissez, mon ministère, comme le ministère de tous les apôtres, comme le ministère de chacun d'entre nous, est basé également sur une personnalité. Quand nous nous convertissons, le Seigneur ne détruit pas notre personnalité. Est-ce que le Seigneur enlève notre personnalité? Quand vous n'étiez pas chrétien, vous aimiez par exemple le bleu, est-ce que vous l'aimiez après la conversion? Bien sûr, Dieu ne détruit pas notre personnalité. Notre personnalité, nous l'avons. Dieu, le caractère, c'est autre chose, hein? Mais la personnalité, nous l'avons avec des qualités, avec des défauts. Et une de mes qualités, oui, j'en ai une. Une de mes qualités, eh bien, c'est que je respecte vraiment la personnalité des gens. C'est peut-être la seule, j'en conviens. Mais écoutez-moi, mes frères, écoutez-moi pourquoi je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas ça pour vous parler de moi, je vous dis ça pour vous parler de quelque chose de plus sérieux. Un pasteur doit apporter la parole de Dieu, point. Mais que vous le vouliez ou non, le pasteur a une certaine personnalité. Cette personnalité peut être un défaut. Cette qualité que j'ai, et un défaut. Pourquoi? Parce que moi, je ne vous imposerai jamais, je ne vous obligerai jamais. Alors vous allez me dire, mais Dieu aussi ne force pas. Est-ce que Dieu a déjà forcé quelqu'un? Est-ce que Dieu a déjà obligé quelqu'un? Non. Mais on peut, au nom du respect, au nom de la discrétion, au nom de cette discrétion, on peut ne pas suffisamment exhorter. Alors s'il ne faut pas forcer, on l'a vu, Jésus n'a pas forcé Judas à être délivré de l'amour de l'argent, mais de notre côté, on peut ne pas suffisamment exhorter et se retrouver dans la situation où des chrétiens deviennent, eh bien, paresseux, ont enterré le talent, ont, sont amenés à une espèce de fatalisme. Il y a beaucoup de fatalisme dans le royaume de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont fatalistes. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent que même quoi que ce soit qu'ils fassent, même s'ils font rien, l'œuvre de Dieu se fera. Ce n'est pas vrai. Je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Alors c'est vrai que moi je ne force pas, c'est pas du juste. Mais je me suis senti repris cette semaine en préparant la réunion de mardi, en préparant la réunion de ce matin. Je me suis senti repris. Et je sentais au plus fond de mon cœur cette désapprobation de Dieu qui me montrait que je devrais quand même exhorter, insister. Est-ce que c'est biblique d'exhorter, de censurer? Est-ce que c'est biblique? Bien sûr. Donc je me dois, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, parce que ça ne sera pas tout le temps comme ça, je me dois de peut-être d'insister dans le sens où vous devez savoir ce que Dieu vous demande. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à prendre. On a lu ce texte dans Ésaïe, venez à moi, prenez, mangez, achetez, etc. Il y a un moment donné où il faut savoir prendre courage, par exemple. Est-ce que c'est un commandement? Prenez courage. C'est un commandement, il faut faire absolument attention au commandement. Prenez courage. Quand Paul a dit dans la tempête à tous ces gens qui étaient malmenés, je vous exhorte à prendre courage, ça faisait 14 jours qu'ils étaient dans le noir, je vous exhorte à prendre courage. Lui aussi, quelques jours après, si vous lisez le livre des Actes, acte 28, il avait traversé des épreuves, et en voyant les frères, eh bien il rendit grâce à Dieu, et il a pris courage. Parce que c'est vrai que ça fait du bien de voir les frères, et les sœurs bien entendu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vous fait du bien de voir vos frères, vos sœurs? Est-ce que vous êtes content de voir d'avoir des frères et des sœurs? Ben ouais, j'espère que c'est une bénédiction. Moi, c'est une bénédiction de vous voir chaque fois. Presque. Non, c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Les commandements sont sérieux. Dieu n'a pas donné des commandements juste pour dire, tiens, il faut leur donner de quoi réfléchir. Non, chaque commandement est justifié. Et quand le Seigneur Jésus dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, je dois apprendre courage. Des chrétiens sont toujours découragés, non pas parce que Dieu ne veut pas leur donner du courage, mais parce qu'ils ne le prennent pas. C'est, si Dieu dit prenez, c'est qu'il y a un effort à faire. C'est qu'il y a une action à développer. C'est quelque chose de très important. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils écoutent une prédication, ils sont capables de dire, voilà, dans la prédication, il y avait ça qui était bien, ça c'était pas biblique, il y a des gens, alors ça, ils sont capables. Mais ça, c'est pas... Bon, mais c'est pas grave, ça. Mais à la limite, c'est bien. Mais c'est quand même mieux quand on apprend à obéir à la parole du Seigneur. Prenez courage. Alors beaucoup de chrétiens restent là, fatalistes. L'Église, lorsqu'elle grandit, elle peut justifier encore plus ce péché, parce que c'est un péché, que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, comme un péché. Donc bon, vous pouvez l'appeler péché ou pas péché, ça c'est autre chose, mais c'est quand même un péché. Alors vous pouvez dire, mais dans l'Église, il y a assez de monde pour ci, il y a assez de monde pour là. Régulièrement, nous faisons certaines annonces parce que nous en arrivons des fois à ne pas vouloir peut-être insister. Je me souviens en Polynésie, on était 450 membres et à un moment donné, en conseil d'administration, les frères ont dit, bon, bien, plus qu'il n'y a personne pour faire le ménage, on va payer une entreprise pour faire le ménage dans l'Église. Moi, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'était pas... Même s'il y avait l'argent pour le faire, on pourrait le faire ici. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Et on a fait au culte d'après, je leur ai dit, comme je vous le dis. Et dans l'église, il y a des sœurs, des riches et des sœurs pauvres, qui ont eu à cœur de dire, mais c'est ce que Dieu me demande, et il n'y a jamais eu besoin de faire venir une entreprise pour faire le ménage. Mais voyez, vous avez compris ce que je voulais vous dire. C'est qu'on peut... On peut en arriver au nom du respect de la personne et combien c'est important qu'un pasteur vous respecte. Est-ce que c'est important que je vous respecte? Mais si au nom du respect, je ne vous exhorte pas suffisamment, si au nom du respect, je ne vous amène pas à veiller sur votre âme et à faire ce que Dieu vous demande, vous regretterez d'avoir eu un pasteur comme ça. Moi, je vous le dis. Donc, je dois absolument vous exhorter à chacun afin que vous puissiez ne pas vous laisser piéger par un problème. Timothée a failli se faire piéger. Timothée avait été intimidé, je ne sais pas ce qui s'est passé. A-t-il été intimidé par un frère, par un pasteur, par un autre collègue? Je n'en sais rien. Mais Timothée, et pourtant il avait un curriculum vitae spirituel qui était bien. Quand vous regardez comment Paul parle de Timothée dans d'autres textes, vous voyez que c'était un garçon qui vraiment aimait Dieu. Et dans cette affaire que nous venons de lire, nous voyons un jeune homme, un jeune pasteur, qui s'est fait
Eh bien, qu'il s'est fait piéger par la timidité, il a été intimidé par une situation. Est-ce que ça peut arriver que là où on travaille, même dans notre propre maison, est-ce que ça peut arriver que quelque chose nous paralyse? Et bien sûr que ça peut arriver. C'est pour ça que Paul, inspiré par Dieu, va dire à ce jeune frère, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Paul avait dans son cœur ce besoin de dire à Timothée cette parole, et moi je vous avoue que ce matin, c'est le même cas de figure, j'ai le besoin de vous dire, alors à ceux qui se sentent concernés, soyez-le, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe là en ce moment dans votre esprit, mais je vous assure, mes frères et sœurs, que ce que je vous le dis de la part du Seigneur. Je t'exhorte. C'est une exhortation, alors je ne dois pas, moi, voyez, je vous parlais de ma personnalité, c'est pour ça que je vous ai parlé de ma personnalité. Parce que je ne vous obligerai pas. Moi, si vous me dites, ah, mais moi, je ne veux rien faire dans l'église, et bien, moi, voyez, je serais du genre à vous dire, mais écoutez, si tu ne veux rien faire, ne fais rien. Mais ce n'est pas quand même comme ça qu'on doit faire. C'est quand même plus sérieux. On va passer devant Dieu un jour, on va devoir rendre des comptes, vous le savez. On a reçu des talents, ces talents, nous devons les faire valoir. Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Pardon. Qu'est-ce que vous allez faire de cette parole? Qu'est-ce que tu vas faire de cette parole? Cette semaine, mardi en particulier, j'ai été beaucoup interpellé par la prédication que je vous ai apportée mardi soir, bien sûr. Et vraiment, je ressens dans mon esprit ce besoin que nous soyons libérés de la crainte, de la timidité, de ce qui pourrait nous paralyser. Vous savez, des fois, on me dit, je vous donne un exemple. Ah, mais vous savez, monsieur Gault, moi, je suis timide, j'ose pas prier. Alors, est-ce que bibliquement, Dieu dit, bon, ben, si tu es timide, ben, prie pas. Est-ce que c'est écrit? Non, la Bible dit, je veux que tous les hommes prient. Et je crois que ce n'est pas une question d'être riche ou pauvre, analphabète ou très instruit, ça n'a aucune façon de voir. D'être timide ou extraverti, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est le Seigneur me demande quelque chose, je vais le faire. Et si une situation, parce qu'on peut tous se faire piéger, si une situation a fait que ma vie est comme un sommeil, si ma vie est comme paralysée, si j'ai enterré le talent, vous connaissez ce texte où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents, et ça s'adresse à un serviteur, donc un chrétien, un croyant, un pasteur, qui avait enterré le talent que le maître lui avait confié. Alors il avait justifié à sa façon, parce qu'on peut tous justifier, moi j'ai pas le temps, si vous connaissez mon programme, mais ça... C'est quelque chose qu'il faut absolument mettre devant Dieu. C'est à chacun de nous de se placer devant Dieu et de ne faire que ce que Dieu nous demande. Je me souviens de cette pastorale où j'avais discuté avec un pasteur qui avait dit « J'ai tellement de travail à faire que vivement que je sois à la retraite pour que je puisse exercer mon ministère. » Alors, je lui avais dit « Qu'est-ce que tu dirais d'un boulanger qui dit vivement que je sois à la retraite pour faire du pain ?» Alors, il a compris de suite. Mais vous voyez, c'est incohérent. Alors, ça paraît très débordant d'activité. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'était. Mais j'ai dit, mais ça ne tient pas debout. Parce que ce que Dieu nous demande de faire, on a tous le temps de le faire. Et je crois que ce n'est pas la peine de courir dans une activité ou des activités, mais d'avoir la joie de faire ce que Dieu vous demande. Et chacun d'entre vous, si vous êtes baptisé par immersion, si vous avez accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur et comme maître, comme nous l'avons si bien chanté au travers de ces chants, nous ne pouvons pas, je veux dire, passer outre et nous devons savoir qu'est-ce que je dois faire. Je t'exhorte à ranimer la flamme, parce que Dieu compare ce don à un feu. Un feu, vous avez peut-être vu une cheminée, il faut continuellement l'entretenir. Sinon, il s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de chrétiens pensent que parce que Dieu est souverain, l'œuvre de Dieu se fera. Mais c'est faux. L'évangélisation ne se fera pas parce que Dieu veut sauver des âmes. Et comme disait si bien Jérémie dans la prédication de jeudi soir sur les anges, même pour l'évangélisation, Dieu n'enverra pas des anges. Est-ce que Dieu pourrait déléguer le travail aux anges? Quand Dieu a voulu sauver le eunuque éthiopien, c'est le eunuque éthiopien, oui. Est-ce que ce n'est pas un ange qui a dit à Philippe, va sur le chemin de Gaza? Et on aurait pu dire, ben, écoute, tu t'es là, fais le travail. Non, Dieu a demandé par le biais d'un ange à ce qu'un frère aille évangéliser ce ministre. Mais nous devrions avoir cette sagesse de pouvoir dire, mais non, l'œuvre de Dieu se fera au travers du corps de Christ. Dans les évangiles, l'œuvre se faisait au travers de Jésus parce que Jésus était sur la terre, mais à partir du livre des actes, l'œuvre de Dieu se fait au travers de l'Église. Et parce que Jésus-Christ est dans l'Église par la puissance du Saint-Esprit. Et mes frères et sœurs, je vous l'ai dit, c'est vrai que je ne vous forcerai pas, et je ne dois pas vous forcer. Je vous exhorterai, mais je ne vous ai peut-être pas suffisamment exhorté à prendre conscience que moi aussi, je dois vous dire, mais ranime le don, ranime la flamme. On a plein de besoins dans l'Église. Il y a plein de besoins. Vous voyez, quand je pense au travail qu'on a fait au Mali, c'est quand même extraordinaire. Je ne le dis pas pour qu'on se jette des fleurs, même s'il faut, on l'effacera de la prédication. Mais quand même, vous avez vu tout le travail qui s'est fait au Mali avec l'association de M. et Mme Bordeneuve. Quand même, Mme Bordeneuve a dit à plusieurs reprises ici, 55% du travail qui a été fait au Mali l'a été par l'Église de Sainte-Agne. Est-ce que c'est bien? Ça représente des, je ne sais pas combien, de dizaines et de dizaines de milliers d'euros. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas si vous le savez, mais Mme Bordeneuve m'a dit à plusieurs reprises, M. Gault, il y a un ministre, il aimerait voir le représentant de l'Église de Sainte-Agne pour remercier pour tout ce que l'Église a fait. Est-ce que c'est bien? Bien sûr, bon, j'ai jamais été, parce que j'ai pensé que l'argent qu'on me donnait pour le voyage, il valait mieux acheter du mille ou des affaires scolaires. Voilà, bon, mais ça c'est un choix. Mais pourquoi? Parce que nous avons compris que c'est bien d'avoir une vision, de former des serviteurs. Est-ce que c'est bien? Bien sûr, mais chacun d'entre nous, nous devons faire ce que Dieu nous demande. C'est important. Et il ne faut pas vivre dans la sincérité. Oh, mais moi, vous savez, monsieur, moi je suis sincère. Mais la sincérité, je peux vous dire que ce n'est pas la vérité. Le critère de la vérité, c'est la parole de Dieu. Timothée, avec un cœur pur, on n'a pas le temps de le voir, mais pour ceux qui prennent des notes, dans Philippiens chapitre 2, 19 à 21, vous avez comment ce garçon a été un instrument de bénédiction pour l'apôtre Paul. Nous pouvons être un instrument de bénédiction, et en même temps, nous pouvons connaître un problème qui va nous paralyser. C'est bien d'avoir été en bénédiction. Est-ce que vous avez été en bénédiction dans le passé? Répondez-moi. Est-ce que c'est bien? Vous pouvez dire, oh oui, il y a 3 ans, j'étais en bénédiction quand je me suis converti. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours en bénédiction? Ce qui fait, c'est peut-être pas le cas. Vous pouvez dire, ah ben non, moi aussi, tiens donc, j'ai peur de témoigner, je suis devenu timide, je suis comme paralysé, parce que vous avez peut-être pris plusieurs fois des râteaux, et peut-être que vous avez peur de témoigner. Est-ce que ça peut arriver d'avoir peur de témoigner? Mais je crois qu'il faut réapprendre, dire Seigneur, mais redonne-moi cette grâce pour pouvoir tout à nouveau faire ce que tu me demandes. Donc, il le met en garde, l'apôtre Paul, et ce matin, écoutez-moi bien, c'est sérieux. Moi aussi, je vous mets en garde. Je vous mets en garde de la même manière, avec plein de tendresse, plein de sévérité. Je sais très bien qu'ici, vous ne regardez pas cela, vous voulez la vérité. Donc, ce n'est pas une question de tendresse ou une question de sévérité, c'est une question de vérité. Vous devez entendre cette parole, je t'exhorte à ranimer la flamme. Alors, ça va peut-être commencer par la prière. Ben, la prière pour les perdus. Je donnais ce témoignage à Albi, d'ailleurs à Thierry, il y a un frère qui est là. Il fait partie des 5 pour qui on a prié il y a 25 ans. Vous voyez, j'ai donné un témoignage dimanche dernier et mardi d'une réunion de prière où on avait coupé court à la réunion de prière, la réunion d'édification. Et nous avons dit, bon, est-ce qu'il y a des besoins? Et il y avait 5 frères et sœurs dans l'église, tu te rappelles? Oui, tu t'en rappelais. Voilà, qui étaient au chômage. On a prié et les 5 ont trouvé du travail. Il y a Thierry pour en témoigner, il est là. Et justement, toi, tu avais trouvé un travail qui n'était pas trop dans tes cordes, mais tu l'avais pris, tu te rappelles, tu vendais des bouquins. Hein, vendais des bouquins alors qu'il était ingénieur. Il me dit, je le prends le travail ou je ne le prends pas? Je suis ingénieur et j'ai trouvé un travail d'aller vendre des bouquins. J'ai dit, fais-le. Tu te souviens? Et il l'a fait. Et 6 mois après, comme par hasard, parmi le lot et le flot d'ingénieurs qu'ils recherchaient, il fallait un ingénieur qui avait fait un peu de commerce. Et qui c'est qu'ils ont pris? Thierry. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment donné, il faut se réveiller. Il faut se réveiller et dire, mais c'est clair, nous sommes dans une assemblée où il y a la paix. Il y a la grâce, c'est vrai. Et c'est vrai, il y a la communion fraternelle. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit ne veut pas nous amener plus loin? et que chacun, nous puissions nous mettre à prier comme on l'avait fait ce samedi soir. Moi, je me suis réjoui de voir que quelques jours après, les 5 jeunes, tous les 5 jeunes, avaient trouvé du travail. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction? Et moi, je crois qu'on doit. Mardi, une sœur m'a dit, « Monsieur, vous priez pour moi, je suis au chômage, j'ai besoin d'un travail. » Et je suis convaincu que cette jeune fille va trouver du travail. Mais il faut que nous portions les fardeaux les uns les autres. Voyez, la discrétion, c'est une qualité. Être réservé, c'est une grande qualité. Comparé aux gens extravertis qui parlent tout le temps, je vous avoue que la discrétion, c'est une bénédiction. Mais mes frères et sœurs, il ne faudrait pas que la discrétion nous empêche d'obéir à Dieu. Timothée avait vraiment de quoi recevoir des éloges. Et pourtant, il doit entendre cette parole de la part de son mentor. « Je t'exhorte à ranimer la flamme. » C'est quelque chose de sérieux. Il le met en garde parce qu'il est peut-être en train de perdre son ministère. Oui, il y a des choses qui nous affectent. On est tous affectés par des problèmes, tous. On n'est pas des robots, il y a des choses qui nous affectent, ce sera la famille, ça peut être le couple. Moi je vois, il y a des choses qui m'affectent aujourd'hui, qui ne m'affectaient pas il y a 30 ans, et vice versa. Est-ce que c'est normal? Oui ou non? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent vous affecter? Hein? Moi il y a des choses qui m'affectent, voilà, et bien, c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas parce que des choses m'affectent que ça doit m'isoler, au contraire, je dois réagir. L'esprit que Dieu nous a donné, on l'a lu, ne nous rend pas timide. Qu'est-ce qui peut nous intimider? Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes intimidés? Qu'est-ce qui se passe quand on a peur? Quand on commence à tomber dans la crainte? Vous regarderez dans le dico la définition de l'intimidation. Et vous allez voir que dans le Robert, il y a de quoi. Hein? Mais on peut perdre beaucoup de choses. Comme Paul, comme Timothée, on peut en perdre la joie de servir et de faire valoir le talent. On peut perdre son autorité, son assurance. Est-ce que c'est bien d'avoir de l'assurance? Bien sûr que c'est bien. Est-ce que c'est bien d'avoir de l'autorité? Ben oui, c'est pas de l'autoritarisme, mais une autorité, cette confiance profonde dans la grâce de Dieu. Dont le but de l'intimidation, on le voit, c'est de nous empêcher d'agir, de nous écraser, voyez, de nous rendre inférieurs. Mais moi, je ne vaux rien, moi, je ne saurais jamais rien faire. Vous croyez que Dieu prend les gens en fonction de leurs capacités? Bien sûr que Dieu donne des talents en fonction des capacités, mais Dieu cherche des gens qui ont un cœur pur, un cœur droit. Rappelez-vous Gédéon qui était le plus petit de la famille, la famille était la plus petite de la tribu, et la tribu était la plus petite de toutes, enfin, c'était le tout petit des tout petits. Mais Dieu l'a choisi, pourquoi? Eh bien parce qu'il était vrai, et parce que quand il a entendu la parole de Dieu, il a obéi. Donc l'important, ce n'est pas ce que nous pourrions sembler être, l'important c'est d'obéir. Et Timothée est un garçon qui prenait certainement très au sérieux les exhortations que ses pères pouvaient lui adresser. Et je vous pose la question, je sais l'affection que vous avez pour moi, vous me l'avez prouvé, mais au-delà de l'affection qui est un grand bienfait, je vous pose la question de la part du Seigneur. Est-ce que vous écoutez les exhortations que je vous adresse? Ou est-ce que vous vous contentez juste de mon affection? C'est bien l'affection, c'est... Franchement, quel bienfait. Ça fait 15 ans que je suis là. Vraiment, je sais ce que c'est l'affection. Vraiment fraternelle. Je sais vraiment combien c'est quelque chose de précieux. Mais quand même, il n'y a pas que l'affection. Il ne persévérait pas que dans la communion fraternelle. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et il y a quand même un moment donné, on doit se dire, mais oui, cette exhortation, c'est pour moi. Je priais avant pour le salut des âmes. Maintenant, peut-être que je ne sais pas, mais je ne prie plus. Parce que quelqu'un m'a dit, tiens, tu as prié trop longtemps. Est-ce qu'il y a des gens fins qui sont capables de nous donner des encouragements comme ça? Oui, il y a des gens, mais après tout, est-ce qu'on n'en a pas besoin des fois aussi? Moi, je crois que Dieu peut faire concourir toutes choses à notre bien. En tous les cas, lorsque nous ne prenons pas au sérieux une exhortation qui nous est vraiment adressée, qui vient vraiment de la part de Dieu, eh bien, le danger, c'est que l'œuvre de Dieu ne se fait pas. Et je ne voudrais pas que le jour où on passera devant Dieu, le Seigneur nous reproche en tant qu'église locale ou en tant qu'individu d'être passé à côté de certaines choses parce que nous nous sommes permis de tomber dans le fatalisme ou dans la paresse. Et ça sera grave. Et je sais que pour certains d'entre vous, ça par contre je le sais, vous êtes profondément en danger parce que vous ne faites plus rien. Alors là c'est à vous, là c'est sûr que c'est à vous de vous tenir devant Dieu, de dire mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je crois que c'est l'an dernier, aux ados, il n'y avait que 2 animateurs pour s'occuper de la flopée d'ados qu'il y avait. Alors ils le font. Mais en fait, je veux dire, je crois que ça vaut la peine de dire, Seigneur, mais est-ce que tu ne m'appelles pas à aider? Quelqu'un est venu cette semaine nous voir à la maison pour dire, voilà, moi je veux bien vous aider, je peux peut-être pas prêcher aux ados, mais je peux aider pour entourer, pour les activités. Eh bien, ça nous a réjouis. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est certainement quelqu'un qui s'est tenu devant Dieu et qui a compris qu'il fallait qu'il trouve sa place. Et moi je vous le dis, parce que vous allez passer devant Dieu, parce que je veille sur vos âmes dont je devrais rendre compte. C'est écrit ça? Oui. Et moi j'ai envie que ça se passe bien. Moi je ne sais pas si vous me suivez, mais moi le jour où je vais passer devant Dieu, moi j'aimerais que ça se passe bien. Et ça ne se passera bien que si je vous apporte vraiment le conseil de Dieu. C'est pour ça, je vous dis à tous individuellement, à tous et surtout ceux qui sont concernés, que fais-tu du don que Dieu t'a donné? Est-ce que vous êtes piégé comme Timothée a pu le faire, malgré sa pureté, malgré toutes ses qualités? Est-ce que vous pouvez dire, oui, je dois absolument venir. Le mardi, on a une réunion de prière, tu m'as donné une voix, il y a des millions de muets sur la terre. On n'y fait peut-être pas attention, il y a des millions de gens qui sont muets et qui ne peuvent pas prononcer un mot. Est-ce que ce n'est pas un talent d'avoir une voix pour parler? Eh bien, pourquoi ne pas faire valoir sa voix en suppliant Dieu de bénir et de sauver et de travailler et dans l'église, comme on l'a fait ce soir à l'Albi, où tous ces jeunes ont trouvé un travail? Mais oui, mes frères et sœurs, c'est vrai que le but de l'intimidation, c'est de nous paralyser. Et le diable, il le sait. Parce que si le diable ne peut pas empêcher Dieu de nous donner des talents, est-ce que le diable peut empêcher Dieu de donner des talents? Bien sûr que non. Mais le diable peut nous empêcher d'utiliser ces talents. Et il le sait très bien. Et c'est pour cela qu'il faut que nous en parlions. Ce que le diable veut, c'est ça. Regardez comment le diable a intimidé Élie. Vous connaissez Élie, ce prophète de Dieu, cet instrument de Dieu extraordinaire, qui a été utilisé par Dieu d'une manière extraordinaire. Et puis, paf, un moment de fatigue, un moment certainement d'épuisement. Et voilà une parole d'une femme l'a complètement intimidé. Il l'a paralysé, il a fui, il s'est retrouvé même dans le désert, il a demandé la mort, il voulait plus être avec ses serviteurs, il a mis son serviteur de côté. Vous savez, quand on commence à faire le vide, moi je crois qu'on a besoin de moments de solitude. Mais je pense qu'on a besoin de communion fraternelle. Et quand on veut volontairement se retrouver seul parce que les autres ils nous énervent, c'est pas bon signe. Et Élie s'est retrouvé tout seul dans le désert, demandant la mort. On peut se demander comment un homme de Dieu comme ça peut en être arrivé là. Eh bien voilà, un des pièges du diable, de nous paralyser, et voilà. Et puis après on finit même par trouver ça normal. Une femme qui avait pris justement une autorité même sur son mari, une femme qui avait pris l'autorité sur tout le pays, une femme diabolique, c'est pour moi qui le dis, c'est écrit, et si vous le lisez, vous verrez que je n'exagère pas. Eh bien elle a paralysé l'esprit de cet homme. Et jusqu'au jour où Dieu a commencé à restaurer son serviteur, car Dieu ne nous abandonne pas même si on en est là, et il lui dit à un moment donné, mais que fais-tu ici Élie? De l'air de dire, mais pourquoi tu as fui? Parce qu'on peut être ici, dans la maison du Seigneur, et en même temps être très loin de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est là qu'on est proche du Seigneur. Ne nous mettons pas ça en tête que parce que nous sommes dans une église, nous sommes très proches du Seigneur Jésus-Christ. Ne nous imaginons pas parce qu'on prend le pain et le vin que nous sommes en communion avec Dieu. Mais Dieu sait comment nous aider, que son nom soit béni. Dieu sait comment vous aider. Dieu sait comment vous soutenir, Dieu sait comment vous nourrir. Regardez les onze dans la chambre haute, le jour de la résurrection, enfin, ils n'étaient que 10, Thomas n'était pas là. Vous vous rappelez, ils étaient là, enfermés, ils avaient peur. Et ils avaient peur des Juifs, parce que mais c'est sûr, avec ce qu'ils avaient fait à Jésus, ils pouvaient se dire, tiens, c'est le prochain, c'est nous. Est-ce qu'ils ont pensé ça? Ben oui, c'est évident. C'est évident, ils ont dû se dire, ce qu'on a fait à Jésus, on va nous le faire. C'est clair, c'est nous les prochains. Et voilà que ce soir-là, qui c'est qui rentre les portes fermées dans ce lieu pour faire des reproches d'une méchanceté terrible aux 10? Qui c'est qui est rentré dans la salle? Jésus. Pour faire des reproches sévères? Est-ce qu'il aurait pu? Ah ouais, il aurait pu. Franchement, il aurait pu. Il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu aller voir Hérode, tiens. Est-ce qu'il aurait pu aller voir Hérode? Ou Pilate, pour régler les comptes? Ou Caïphe, est-ce qu'il aurait pu? Le Seigneur, il s'intéresse à ses enfants. Le jugement viendra un jour, ça c'est notre chose. Mais en attendant, nous sommes dans la dispensation de la grâce, et Dieu, il sait venir, et même si on a peur, même si on est dans la crainte, commencez par nous dire, la paix soit avec vous. Parce que je crois à une chose, c'est que quoi que ce soit qui s'est passé, le Seigneur, il vient et il nous donne sa paix. Après, il va falloir régler les comptes, c'est sûr. Mais mes frères et sœurs, soyez en paix. Cette prédication, peut-être, elle vous dérange, je ne sais pas. Mais soyez en paix. Le Seigneur Jésus, il veut vous aider. Le Seigneur Jésus, il va vous aider. Vous avez vu comment il a aidé Élie. Élie était fatigué, Élie était épuisé. Mais il va lui parler, de l'importance de retrouver. Regardez juste un verset qui nous intéresse. 1 Roi 19, c'est bien de lire ces choses. Mes frères et sœurs, c'est très important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous êtes fataliste, si nous sommes fatalistes, l'œuvre de Dieu ne se fera pas. 1 Roi 19, bon, il y a toute cette phase d'après des expériences et après ce désert, où il est fui dans le désert. Mais regardez. Au verset 15, 1 Roi 19, 15. Et c'est peut-être la parole de Dieu pour vous ce matin. Regardez. L'Éternel lui a pas fait un reproche. Ah bon, tu demandes la mort. En plus, ironie du sort, il va même pas mourir. Il va même pas mourir puisqu'il va être enlevé. Verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert. Aïe, tant pis. Reprends ton chemin par le désert. Ça arrive qu'encore des fois, on doit traverser des déserts. Jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée. Bon, la suite, c'est qu'il fallait qu'il amène l'onction sur les autres. Mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, elle se fait lorsque les autres reçoivent l'onction. Notre onction, lorsqu'une église reçoit l'onction. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'amène l'onction sur les autres pour que l'œuvre de Dieu se fasse? Ou est-ce que je suis paralysé et que je n'amène rien du tout sur les autres? Parce que c'est vrai que quand vous voyez les gars dont on vient de citer, je vous assure qu'eux, ils ont fait le travail, ils ont poursuivi le travail qu'Élie ne pouvait peut-être plus faire. Mais mes frères et sœurs, est-ce que nous voulons poursuivre le travail? Est-ce que nous voulons amener la bénédiction sur nos enfants, sur nos petits-enfants? Est-ce que vous voulez amener la bénédiction? Eh bien, il faut faire ce que Dieu nous demande. Et il faut le faire, mais sérieusement, il faut vraiment se faire violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Peut-être que vous avez peur, les apôtres ont eu peur, parce qu'il y a eu un moment difficile. Élie a eu peur, parce qu'il y a eu un moment difficile. Vous voyez, Judas, certainement, il a eu peur, mais il a eu peur, lui, peut-être d'aller voir Jésus pour lui parler de son avarice. Mais franchement, est-ce que vous connaissez notre Seigneur? Est-ce que vous avez peur d'aller le voir pour lui dire, écoute, voilà, Seigneur, tu vois ce problème que j'ai avec tel domaine. Cette semaine, il y a un frère qui est venu me voir, il n'a pas osé me présenter verbalement son problème, il me l'a mis par écrit. Et bien moi, j'ai dit que c'était bien d'avoir du courage, voilà, c'est vrai que c'était délicat, mais par écrit, il m'a dit, voilà, monsieur Gau, j'ai tel problème, priez pour moi, et on a prié ensemble. Moi, je crois qu'il ne faut pas, à un moment donné, il ne faut pas avoir honte, il faut dire, aidez-moi, je vous en supplie, faites quelque chose. Mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu ne se fera pas si nous devenons passifs ou fataliste, croyez-moi. Et même si nous savons que nous avons un Dieu plein d'affection, de tendresse, qui va nous donner la paix, moi je crois que ce matin, si le Seigneur Jésus venait physiquement parmi nous, la première des choses qu'il nous dirait, c'est « la paix soit avec vous ». Mais il se pourrait aussi que peut-être, il nous prenne à part et nous dise « voilà, Gérard, est-ce que tu m'aimes ?» Parce que bon, vous rappelez comment ça s'est passé pour Pierre. Malgré la paix que Pierre a reçu, il y avait quand même des problèmes à régler. Alors c'est bien la paix, et je peux vous dire dans 5-10 minutes que la paix de Dieu soit sur vous, et c'est une prière vraie que je formulerai, que je demanderai, parce que je crois qu'il y a des prières d'accompagnement, mais mes frères et sœurs, je vous exhorte, et je le dis au singulier, je t'exhorte à ranimer la flamme pour que nous ne passions pas à côté. Je vous parlais d'Albi, je vous parlais de Groyer, où nous étions 30 au culte et 25 à la réunion de prière, mais tous les 25, prier. Et nous avons vu cette église se remplir. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui plaisent à Dieu. Tout le monde peut dire, oh, monsieur Gau, c'est pas le nombre. Mais c'est clair. Mais c'est clair et c'est clair. C'est pas le nombre qui fera qu'on va être béni. Mais une chose est certaine, il y a un état de cœur où Dieu voit que tous ensemble, on veut participer à la nature divine. Tous ensemble, on veut faire ce que Dieu nous demande. Et quand Dieu dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, parce que du mal, il y en a, mais surmonte le mal par le bien, et nous pourrions prendre, là je n'ai pas le temps, mais nous le ferons certainement mardi pour continuer ce sujet, parce que moi c'est quelque chose qui me préoccupe, que tous les chrétiens fassent vraiment ce que Dieu leur demande. Des fois il n'y a personne pour la publication, Michael Guillère me dit cette semaine, monsieur Gou, il faudra faire une annonce, et c'est vrai qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui écoutent les prédications sur le site internet. Vous vous rendez compte, s'il n'y avait personne pour les dupliquer, est-ce que ça ne serait pas un dommage? Oui, non? Et mes frères et sœurs, moi je suis persuadé que si vous vous tenez devant Dieu, le Seigneur vous mettra à cœur ceci, c'est pas possible autrement. Alors moi, je sais que Dieu peut mettre un frère à cœur de venir vous voir, de tiens, je crois que tu pourrais aller peut-être à la chorale, tu chantes bien. Bon, ça, je sais très bien qu'on ne le dira pas, mais c'est un exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu peut utiliser quelqu'un pour vous mettre le pied à l'étrier. Ça, c'est vrai. Mais si vous vous tenez devant Dieu, tous, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je répète, ma personnalité, c'est une chose. L'affection dans l'Église, c'est un bienfait. Mais chacun d'entre nous, nous devons prendre au sérieux cette exhortation. Je t'exhorte à ranimer cette flamme que tu as reçue, cette bénédiction que tu as reçue. Qu'est-ce que vous faites de ce que Dieu vous a donné, de cet esprit d'amour, de force et de sagesse? Moi aussi, des fois, je suis intimidé. Ah, vous savez ce que j'ai? J'ai toujours un évangile sur moi. Et quand je n'ai pas pu témoigner, je dis, écoutez, voilà, tiens, je suis chrétien, lisez cet évangile de Jean. Ça, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Est-ce que c'est toujours facile de témoigner? Moi, je trouve que ce n'est pas toujours facile. C'est un combat, il y a un combat. Mais est-ce que quand même c'est facile de prendre un évangile, de le donner à quelqu'un, voilà, écoutez, on n'a pas eu le temps de parler de mes convictions religieuses, voilà, je suis chrétien, lisez l'évangile de Jean. Est-ce que ça, tout le monde peut le faire? Bien sûr, mais voyez, et c'est peut-être comme ça que l'on réapprendra à faire valoir ce talent. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alors, je voudrais terminer, j'aimerais que vous lisiez chez vous, 1 Samuel chapitre 30. On va terminer avec, on ne va pas le lire en entier, mais dans 1 Samuel chapitre 30, nous voyons un homme qui a été choisi par Dieu parce que cet homme obéirait. Il a été berger, plus tard il a été roi. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, quel que soit le travail que l'on ait eu à faire, le titre que l'on ait eu, ce n'est pas important. Cet homme, berger, cet homme, roi, a obéi à Dieu. Malgré les quelques erreurs de parcours, il s'est profondément ressaisi. On voit un homme qui un jour se retrouve dans une situation des plus terribles. Il rentre chez lui avec ses soldats et qu'est-ce qu'il voit? Toute la ville entièrement brûlée. Vous entendez? 1 Samuel chapitre 30, Madame Bourdel. Il rentre chez lui et il voit sa ville entièrement brûlée. Ses enfants, leurs femmes, il n'y a plus rien. Alors, on va lire ce qui nous intéresse, mais vous le méditerez, ce chapitre. Alors, moi, j'aime le verset 6. J'aime le verset 6 parce qu'il comporte deux états d'âme profonds. David fut, dans quoi il était? Dans une grande angoisse. Non seulement il avait tout perdu, mais en plus, il fallait un coupable. Car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Vous avez vu, il est dans une grande angoisse. Une grande angoisse, c'est une grande angoisse. Il est vraiment dans une dépression profonde. Ce n'est pas parce qu'on est dans la dépression, ce n'est pas parce qu'on est dans une grande angoisse que ça nous interdit de crier à Dieu, que ça nous interdit de retrouver courage. Oui, vous comprenez, si vous étiez à ma place, eh bien, vous ne parleriez pas pareil. Écoutez, moi je vois David, Abraham, on voit plein d'hommes de Dieu qui ont connu des angoisses, et quand ils en parlent, eh bien, moi ça me fait du bien. Il y a des gens, quand ils parlent de leur angoisse, c'est clair qu'il vaut mieux les éviter. Mais vous avez là la preuve que l'on peut être dans une grande angoisse et réagir de suite et dire, voilà, bon, d'accord, c'est grave ce qui m'arrive, mais je peux reprendre courage. Vous avez vu, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Qu'est-ce qu'il avait besoin? Il avait besoin d'une parole. Verset 8. David consulta l'Éternel en disant, poursuivais-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Ça pourrait être la parole de Dieu pour quelqu'un ce matin. Que Dieu vous dise, au travers de mon ministère, eh bien, écoute, lève-toi. Recommence à servir, retrouve ta place dans l'église, trouve ta place, la celle que je veux que tu aies dans le corps de Christ, et tu atteindras. Et au verset 19, la fin du verset 19, franchement, qu'est-ce qu'il est dit? David ramena tout, plus le butin des ennemis. Voilà. Mes frères et sœurs, à un moment donné, oui, vous êtes peut-être dans l'angoisse, oui, vous êtes peut-être déprimé, oui, vous avez peut-être perdu, oui, le diable vous a peut-être volé, parce que le diable, un de ses principes, c'est un voleur, et il veut vous voler, il veut tout nous voler. Et combien de chrétiens ont perdu la paix, ont perdu la joie, ont perdu l'assurance? C'est pas parce autre chose qu'un combat spirituel où Dieu l'est volé. Le diable vous l'a volé. Il reçut une parole de Dieu, il a obéi. Voilà. Est-ce que ce matin, vous avez reçu une parole de Dieu? Écoutez, répondez-vous. Si vous ne répondez pas à haute voix, ce n'est pas grave. Mais répondez au Seigneur. Est-ce que vous avez reçu une parole de Dieu qui vous demande, j'allais dire, qui vous ordonne? Mais oui, on peut le dire. Oui, c'est ça. Ça, c'est le travers de ma personnalité où des fois, je n'ose pas utiliser certains mots. Est-ce que les ordonnances de Dieu sont bibliques? Est-ce que Dieu donne des ordres? Vous voyez? Mais ça, voilà, c'est le côté négatif de ma personnalité. Quand Dieu donne des ordonnances, laissez-vous convaincre que ce sont des bénédictions. Dieu sait les ordres qu'il peut nous donner. D'ailleurs, David disait, tes ordonnances réjouissent mon cœur. Alors, soyons fidèles. C'est pour ça que j'ai pris ce texte dans Ésaïe 55, mais venez, prenez, achetez du lait, de l'or, de l'argent, sans rien payer. Vous connaissez tous ces textes. Quand il est dit prenez et buvez, ce n'est pas de prendre le petit peu de vin, c'est de prendre la victoire. Et dire Seigneur, mais ce vin représente ton sang, je prends la victoire. C'est pas le vin, il y a des gens, ils sont superstitieux. Vous allez me dire, monsieur Gros, des chrétiens superstitieux? Eh bien oui, il y en a encore. Mais c'est un état de cœur. Ce morceau de pain me rappelle son corps brisé au calvaire. Il a eu la victoire, il a tout accompli. Je peux prendre. Quand Jésus dit, venez à moi, prenez mon joug, recevez mes instructions. Quand il dit, achetez des vêtements blancs, achetez du collier, achetez de l'or. De l'or, est-ce qu'on peut acheter de l'or? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acheter de l'or ici? Oui. Voilà, mais vous comprenez bien que même sans argent, ça veut dire, mais qu'il y a un effort. Je veux acheter des choses spirituelles, je veux des choses de valeur. Seigneur, je ne veux pas que le diable me prenne ce que tu m'avais donné. Quelqu'un me disait dernièrement, oui, je priais avant, maintenant je ne prie plus. Et bien, voilà, vous avez compris. Moi, je crois que la volonté de Dieu, c'est que les hommes bons fassent ce qu'ils ont à faire. Alors, est-ce que nous voulons faire ce que Dieu nous demande? Mes frères et sœurs, commençons par la prière. Commençons, une dame me disait à son mari devant moi l'autre jour, mais monsieur, vous dites à mon mari de prier avec moi, on est un couple, on ne prie jamais ensemble. Et voilà, recommençons comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas prier ensemble 3 minutes avec son conjoint? Seigneur, bénis nos enfants, ils t'ont abandonné. Est-ce que ça peut plaire à Dieu, ça, qu'un homme et sa femme prient ensemble? Seigneur, bénis nos enfants. Est-ce que vous croyez que Dieu va dire, ah, je ne sais pas si je vais bénir tes enfants? Non, mais il y a des fois, il y a des gens qui prient, on se demande s'il y a des choses quand vous priez. Je peux vous dire que Dieu est d'accord. Quand vous priez pour le salut de vos enfants, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas besoin de demander à Dieu s'il est d'accord. Dieu vous poussera dans la prière à demander le salut de vos enfants. Mes frères et sœurs, je vous le dis avec beaucoup d'affection parce qu'on se connaît suffisamment, vous me connaissez assez. Mais je vous supplie de me pardonner, de ne pas avoir suffisamment exhorté les frères, les sœurs, surtout ceux qui ne vont pas bien, à reprendre du collier, comme on dit, à reprendre cette ferveur, à reprendre cet enthousiasme, à reprendre cette vie de l'esprit, car qui pourrait penser un instant qu'on peut être malheureux quand on fait la volonté de Dieu? Quel chrétien pourrait une seconde dire « Oh, si je fais la volonté de Dieu, ça, je vais être pénalisé ». Personne ne pourrait penser un truc pareil. Ou alors vous n'êtes pas converti. Quelqu'un de converti sait très bien que plus il sera dans la volonté de Dieu, plus il sera heureux. Alors je voudrais qu'on termine en priant, vraiment. Qu'on demande au Seigneur cette grâce, que vraiment, même si vous êtes dans l'angoisse, vous avez vu, moi j'aime ce verset, dans une grande angoisse, c'est pas la peine que ça dure des mois. Vous pouvez dire, bon mais je m'appuie sur Dieu, c'est Dieu qui fait les choses. Mes frères et sœurs, restons les yeux fermés, est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui donne? David reprit courage, il ne l'a pas pris en lui, il pouvait dire, l'Éternel est la force de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire, oui, Jésus-Christ est la force de ma vie, je ne craindrai rien? Est-ce que quelqu'un peut dire, mais c'est pas moi, c'est pas mes forces physiques, oui j'ai 40 ans, j'ai 30 ans, physiquement, mais c'est pas ça. Dieu ne parle pas de la force physique. Est-ce que vous pensez que Dieu est fort et qu'il peut vous donner ce que vous allez lui prendre? Prenez courage, prenez et mangez, prenez et buvez. Acheter du vin, acheter du lait, tous ces éléments qui nous parlent de cette bénédiction d'en haut. Nous y prions, prions le Seigneur, mes frères et sœurs. Notre Père, nous te bénissons pour la pédagogie que tu as utilisée pour bénir les hommes qui étaient angoissés. Comment tu as béni David? Comment tu as béni Élie? Comment tu as béni les 11 dans la chambre haute? Comment tu as su leur parler? Et nous savons, Seigneur, qu'il en sera de même pour nous, que tu nous accorderas cette paix, que tu nous poseras les bonnes questions, que tu nous interpelleras comme il le faut pour que personne ne vienne nous prendre cette couronne. Tu vois dans l'église tous les frères et sœurs qui sont en danger. Tu vois tous ceux qui ont enterré, perdu, tous ceux qui sont tombés dans l'intimidation, tous ceux qui sont paralysés par la crainte. Seigneur, ce matin, oui, tu ne délivres pas que les pécheurs. Tu délivres tous les hommes qui invoquent ta grâce, comme tu aurais pu délivrer Judas, Seigneur, de son avarice. Seigneur, nous ne voulons pas lui ressembler. Nous voulons mettre tout devant toi et dire, Seigneur, délivre-nous, libère-nous, conduis-nous, Seigneur, dans cette vie de grâce. Oui, Jésus, pardonne-nous pour toutes les fois où le talent a été enterré. Pardonne-nous pour toutes les fois où dans cette assemblée, eh bien, nous avons compté sur les autres, alors que tu nous demandais à nous de faire ta volonté. Seigneur, pardonne-nous vraiment du fond du cœur, et que cette assemblée se réveille, que je me réveille, qu'ensemble, Seigneur, nous ayons la joie, cette immense joie de faire chacun ce que tu nous demandes. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen.